L'heure des informations avec vous, Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'ambassade américaine à Bagdad, prise d'assaut ce matin. Des milliers d'Irakiens en colère massés devant ce complexe ultra sécurisé. Certains ont même réussi à pénétrer l'enceinte. Des partisans de paramilitaires pro-iraniens ripostant aux attaques militaires américaines de la veille contre des bases d'un mouvement proche du Hezbollah. Les forces américaines ont dispersé les manifestants à coups de tirs de grenades lacrymogènes. Nous ferons le point sur la situation au début de ce journal.
Carlos Ghosn n'est plus sur le sol japonais. L'ancien patron de Renault-Nissan est arrivé au Liban dans la nuit de dimanche à lundi. Une fuite surprise dont on ne connaît pas encore tous les détails. En résidence surveillée à Tokyo, il attendait son procès pour malversation financière au printemps prochain et risquait 15 ans de prison. Dossier complet à suivre dans ce journal. Nous serons en ligne avec nos correspondants à Beyrouth et à Tokyo.
Également dans l'actualité du jour, les vœux d'Emmanuel Macron ce soir à 20h avec une prise de parole très attendue sur la réforme des retraites. Invité de ce journal, le politologue Bruno Cotrès.
Il y a 20 ans jour pour jour, Vladimir Poutine accédait au pouvoir en Russie. Quatrième mandat pour l'homme fort du Kremlin et un règne sans partage. Nous y reviendrons.
Et puis nous parlerons du News Museum, le musée du journalisme à Washington. Il ferme ses portes ce soir en raison d'importantes difficultés financières. Et puis après ce journal, Raphaël Bourgois, ce sera la suite de la Grande Table des Idées.
La Grande Table Idées, en effet, avec François Gémen, spécialiste de l'environnement, qui publie un atlas de l'Anthropocène, un petit point sur la décennie qui se termine et celle qui commence.
Direction donc Bagdad pour commencer ce journal, la capitale irakienne où l'ambassade américaine a été prise à partie ce matin par des milliers de manifestants. Certains arrivant même à pénétrer la première enceinte de ce complexe ultra sécurisé, une réaction aux attaques américaines de la veille contre des bases d'un mouvement proche du Hezbollah. Les forces américaines ont dispersé les manifestants à coups de tirs de grenades lacrymogènes et à l'instant, le premier ministre irakien appelle les manifestants à quitter le secteur de l'ambassade américaine. Les précision de Christian Chenou.
Les dernières frappes de Washington contre des milices chiites pro-iraniennes ont réveillé un sentiment anti-américain à fleur de peau chez les Irakiens. Une foule qui participait aux funérailles des 25 combattants tués dans ces raids aériens décidés par Donald Trump a réussi ce matin à pénétrer dans la zone verte, quartier ultra sécurisé de Bagdad, où est installée l'ambassade américaine. Scandant des slogans anti-américains, les manifestants ont jeté des pierres en direction de la représentation diplomatique la plus grande au monde. Les forces de sécurité irakiennes se sont interposées aux portes de l'ambassade et ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. L'ambassadeur américain et une partie du personnel diplomatique ont été évacués et mis à l'abri par mesure de sécurité. En voulant casser les milices chiites, Donald Trump a sous-estimé le nationalisme irakien qui rejette à la fois l'influence de Téhéran dans les affaires du pays, mais aussi celle des États-Unis.
Christian Chenot pour France Culture. Je vous le disais en titre, Carlos Ghosn a donc échappé à la justice japonaise. L'ancien patron de Renault-Nissan a fui vers le Liban, un pays dont il possède la nationalité. Il y est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, mais on ne l'a appris qu'hier soir. Il a d'ailleurs confirmé lui-même dans un communiqué ce matin sa présence sur le sol libanais. Carlos Ghosn affirme d'ailleurs ne pas avoir voulu fuir la justice japonaise, mais plutôt échapper à ce qu'il appelle l'injustice et la persécution politique. Carlos Ghosn était pourtant en résidence surveillée avec interdiction de quitter le pays dans l'attente de son procès au printemps prochain pour malversation financière. Il avait remis son passeport aux autorités japonaises. Alors comment a-t-il pu organiser cette fuite du territoire japonais et à quoi a-t-il voulu précisément échapper? Élément de réponse avec Yann Rousseau, notre correspondant à Tokyo.
Carlos Ghosn est dans sa logique de défense depuis son arrestation. C'était il y a plus d'un an, le 18 novembre 2018. Il assure qu'il est totalement innocent et qu'il est victime d'un grand complot politico-industriel. Il pense que des cadres nationalistes de Nissan se seraient associés en secret à des hauts fonctionnaires du ministère japonais de l'Industrie et à des procureurs pour le faire tomber. Ils auraient ainsi voulu libérer Nissan de l'influence française et de Renault. Carlos Ghosn estime donc que ces inculpations ne sont pas fondées et qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'un procès équitable. Il a donc préféré s'enfuir, avec l'aide de son épouse Carole, dans des conditions assez rocambolesques, dont on n'a pas encore tous les détails. On sait qu'il est arrivé à Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi, sur un vol venant de Turquie. Les autorités japonaises cherchent à savoir d'où il a décollé au Japon et avec quels documents. Alors une chaîne de télé libanaise parle ce soir d'une arrivée à Beyrouth avec un passeport français, mais ce n'est pas encore confirmé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a probablement quitté le Japon sous une fausse identité et avec un passeport falsifié, puisque son nom, Carlos Ghosn ou Carlos Bishara Ghosn, n'apparaît pas dans les registres des douanes nippones de ces derniers jours. Et ses avocats, qui sont aussi complètement sous le choc, ont indiqué qu'ils conservaient toujours dans leur coffre ces trois passeports officiels, le français, le brésilien et le libanais.
Et le principal avocat japonais de Carlos Ghosn se dit abasourdi par l'annonce de la fuite de son client au Liban, affirmant n'avoir eu aucun contact avec lui depuis son départ. Alors Carlos Ghosn tiendra la semaine prochaine une conférence de presse au Liban, un pays qui a le grand avantage de ne pas avoir d'accord d'extradition avec le Japon et où il dispose de nombreux appuis, comme nous l'explique notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli.
Véritable symbole du succès de la diaspora libanaise, Carlos Ghosn a toujours été accueilli à bras ouverts dans son pays d'origine, où il passait ses vacances dans une somptueuse villa de Beyrouth, acquise et restaurée aux frais de Nissan, selon la justice japonaise. Mécène et investisseur dans l'immobilier, les banques ou encore le vin, il a construit au fil des années un carnet d'adresses de VVIP, résumé l'année dernière au moment de son arrestation, Sahara Latar du magazine économique Le Commerce du Levant.
La classe politique libanaise le chouchoute à chaque fois qu'il passe au Liban, il y a même un timbre qui a été mis à son effigie. Chaque fois qu'il vient, en tout cas, il est reçu en grande pompe dans les cercles politiques et financiers et économiques.
Des réseaux sur lesquels Carlos Ghosn a pu s'appuyer pour arriver jusqu'au Liban, puisqu'il a quitté le Japon sans ses passeports et sous un autre nom. Depuis qu'il a officialisé sa présence ici à Beyrouth et promis d'organiser sa défense, pas de réactions officielles. Mais Carlos Ghosn le sait, il n'a rien à craindre. Aucune poursuite pénale contre lui ici, où les autorités l'ont toujours défendu, quitte à froisser le Japon. Les Libanais, eux, sont plus divisés alors que le pays traverse une crise économique et politique sans précédent, entre ceux qui le voient comme homme providentiel pour redresser le Liban et ceux pour qui il incarne au contraire les passe-droits et autres arrangements d'une élite politico-économique dénoncée par la rue libanaise depuis la mi-octobre.
À noter encore cette réaction de la secrétaire d'État au commerce, Agnès Pannier-Runacher. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois, a-t-elle dit, mais le soutien consulaire lui est acquis comme tous les Français. C'est une prise de parole très attendue alors qu'on en est au 27e jour de grève contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron prononce ce soir la traditionnelle allocution du 31 décembre à 20h à la télévision. Le chef de l'État devrait rappeler la portée générale de sa réforme mais se dire ouvert au dialogue, indique son entourage. Un discours qui devrait durer une quinzaine de minutes, comme celui de l'an dernier marqué, on s'en souvient, par le mouvement des Gilets jaunes. Anne Fauquemberg.
Cette intervention, elle avait eu lieu 3 semaines après l'allocution du 10 décembre, discours dans lequel Emmanuel Macron avait annoncé des mesures économiques d'urgence et l'organisation d'un grand débat pour pacifier le pays. Mais le 31, le président avait formulé des vœux de vérité, de dignité et d'espoir, justifiant, selon lui, la poursuite de ces réformes.
Nombre de transformations, compensées jusqu'alors impossibles, comme celle du travail ou des chemins de fer, ont été menées à bien. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail pour changer en profondeur les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail, l'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace et notre système de retraite pour le rendre plus juste.
Si les règles de l'indemnisation chômage ont bien été revues, les Français ont clairement dit stop aux réformes dans les services publics, notamment les hôpitaux. Quant aux retraites, inutile de dire que le conflit est plus qu'enlisé. L'Élysée proclame par ailleurs un discours d'apaisement, mais gare aux expressions choc. L'an passé, la foule haineuse pour désigner une partie des Gilets jaunes avait eu du mal à passer.
Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse.
Des propos qui dataient d'avant l'acte 2 du quinquennat pour plus de justice sociale. Un discours qui ce soir devrait aussi durer, comme les autres années, autour de 15 minutes, selon l'Élysée.
Le décryptage d'Anne Fauquemberg. Et nous continuons à en parler avec Bruno Cotterès, politologue. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés, Pierre Neveu, pour vous interroger. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors c'est donc un exercice très rituel et souvent plutôt convenu, ces vœux du 31 décembre. Est-ce que Emmanuel Macron peut vraiment faire des annonces décisive ce soir pour stopper le conflit et surtout y a-t-il intérêt ?
Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron fasse des annonces spectaculaires au sens d'annonces précises. La parole du chef de l'État le 31 décembre est dans un autre registre. C'est une parole qui est à la fois une parole du garant du pacte national. C'est souvent une parole qui a comme objectif de tracer une sorte de conclusion de l'année et de tracer quelques perspectives pour l'année qui s'ouvre. Donc je n'imagine pas le chef de l'État aujourd'hui venant sur des annonces très précises, d'autant que des rendez-vous très importants attendent le Premier ministre et qu'on imagine mal le président de la République couper l'herbe sous le pied au Premier ministre à quelques jours de négociations qui s'annoncent extrêmement difficiles.
Question de Pierre Neveu.
Alors justement, sans aller jusqu'à renverser la table, Emmanuel Macron peut-il ce soir faire un geste sur cette question de l'âge d'équilibre dans cette réforme des retraites ? car une inflexion serait alors interprétée comme un désaveu du Premier ministre, en quelque sorte, alors que Édouard Philippe, lui, a présenté le cadre de la réforme au CESE, au Conseil économique et environnemental.
Alors c'est sûr que depuis que le Premier ministre avait présenté son cadre au Conseil économique, social, environnemental, on n'a pas vu non plus Emmanuel Macron passer clairement un message de désaccord sur la question de l'âge pivot. On a senti peut-être des nuances à l'intérieur de l'exécutif, du duo exécutif, mais on n'a pas eu non plus de manifestation d'un chef de l'État qui aurait passé le message que ça c'était une idée d'Édouard Philippe, mais qu'il ne validait pas. Pour le moment, le chef de l'État a repris plutôt à son compte l'idée qu'il fallait trouver un équilibre budgétaire au système. Et j'imagine mal quand même le chef de l'État devant les Français le 31 décembre désavouant son Premier ministre. Ça serait une crise institutionnelle, une crise politique importante. J'imagine plutôt, moi, le chef de l'État, dont on sait qu'il soigne toujours quand même beaucoup ses discours, qui sont toujours des discours très argumentés, très riches. Je l'imagine plutôt, moi, essayant de retisser le lien entre cette réforme des retraites et son projet initial, parce que c'est quand même ça le cœur du problème. On ne voit plus très très bien aujourd'hui en quoi ce projet est au service de l'objectif de justice sociale ou de redéfinition de la justice sociale.
Alors justement, Bruno Cotterêts, cette réforme a été voulu pour créer un système plus juste, mais c'est devenu une mesure budgétaire. Il faut remettre les comptes à l'équilibre, sachant qu'à l'horizon 2025, il manquerait, selon les prévisions du COR, entre 8 et 15 milliards d'euros. Est-ce que le message de justice sociale ne s'est pas tout simplement brouillé au cours de ces dernières semaines?
Oui, et il s'est brouillé en fait bien longtemps avant, puisqu'on voit depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal à rendre palpable empiriquement, on va dire, cette redéfinition de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est égal en France, qui est quand même le cœur de son projet politique. Et c'est vrai qu'on voit que sur cette question d'expliquer aux Français, de leur montrer concrètement que veut dire avoir de nouveaux droits sociaux tout en préservant le modèle social français, que veut dire couvrir davantage, protéger davantage des catégories de Français qui, d'après lui, n'auraient pas été suffisamment bien considérées par le modèle social protecteur mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. On voit que pour le moment, c'est un exercice de style assez rhétorique, assez théorique et qui a une difficulté pour l'exécutif à incarner ça de manière extrêmement forte dans les réalités de la vie de tous les jours des Français, qu'elles sont inscrites quand même dans des inégalités, des injustices sociales qui n'ont pas été effacées par l'élection d'Emmanuel Macron.
Depuis le début de cette crise, c'est le Premier ministre qui est en première ligne, comme il le sera à partir du 7 janvier pour la reprise des négociations avec les partenaires sociaux. Édouard Philippe peut-il à lui seul contenir la crise, ou bien le chef de l'État doit-il s'impliquer sur le terrain comme il l'a fait en tout début d'année avec le grand débat à l'occasion de la crise avec les Gilets jaunes?
On aura fatalement à un moment donné un président de la République qui sera amené à jouer ce rôle d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, l'une des choses les plus mystérieuses pour moi aujourd'hui de cette crise que nous vivons autour de la réforme des retraites, c'est de voir que aucun argument ne vient nous expliquer en quoi le grand débat qu'Emmanuel Macron a annoncé il y a tout juste un an, le 31 décembre, lors de ses vœux l'an passé, aucun élément ne vient nous expliquer en quoi les propositions de réforme des retraites, du système des retraites en France ou de la protection sociale en général n'ont trouvé leur racine, leur fondement dans le grand débat national. Alors peut-être qu'une ultime carte pour Emmanuel Macron, si la situation devenait totalement figée, totalement bloquée, serait peut-être effectivement d'encourager à ce qu'il y ait un cinquième thème. On avait vu le grand débat national avec quatre thèmes, mais peut-être de dire il y a un cinquième thème qui est la question de la protection sociale et la question des retraites. Et c'est vrai que pour le moment, on a une formidable incompréhension entre une partie des Français et l'exécutif sur ce projet.
Ce sera la dernière question, Bruno Cotterêts, à mi-mandat. Emmanuel Macron doit ce soir s'adresser à son socle électoral qui lui reste fidèle. Il doit réaffirmer sa volonté de transformer le pays, c'est son engagement de campagne. Le problème, c'est que ce message risque de fracturer encore un peu plus le pays.
Alors c'est sûr que pour renverser la table de l'opinion publique, qui pour le moment manifeste un soutien, on va dire, en demi-teinte à ce projet de réforme des retraites, c'est tout sauf simple, la question de l'opinion publique par rapport à ce projet. Pour renverser cette table, il faudrait enjamber les profonds clivages politiques et sociologiques que ce projet fait apparaître. On voit effectivement que les groupes sociaux, que les électorats qui soutiennent, c'est pas toute la France, c'est plutôt soutenu par les retraités. Par exemple, ce curieux paradoxe qui est que ce sont sont les retraités qui sont le plus en soutien d'un projet de réforme qui va peser sur les actifs. Et puis aussi, ce sont plutôt les électeurs de centre-droit qui soutiennent, mais il y a des clivages très profonds. La France populaire, la France des catégories qui souffrent, elle n'est pas vraiment au rendez-vous du soutien à ce projet de réforme des retraites, c'est le moins qu'on puisse dire. Les électorats aussi. Et donc, il y a une sorte de contradiction entre un objectif qui est un objectif de justice sociale pour tout le monde et puis ce projet qui fait apparaître de si fortes tensions.
Merci Bruno Cotterès, politologue, d'avoir été en direct et en studio dans ce journal. Merci également à Pierre Neveu. Je rappelle que l'an dernier, 11 millions de téléspectateurs avaient assisté aux vœux d'Emmanuel Macron. Vous avez peut-être vu circuler cette vidéo sur les réseaux sociaux, celle d'une conductrice de métro prise à partie par des grévistes lors de sa prise de service hier à la station Place d'Italie. La direction de la RATP annonce ce matin l'ouverture d'une enquête interne dénonçant des agissements inacceptables et appelant à l'apaisement. La RATP qui note par ailleurs une légère amélioration ce mardi dans le métro avec deux lignes fonctionnant normalement et 12 autres partiellement, même si elle parle encore de trafic très perturbé du côté de la SNCF, comptait en moyenne un TGV et un TER sur deux. À noter aussi que la CGT du groupe Total appelle à un blocage de toutes les raffineries de mardi à vendredi prochain. C'est une disposition des ordonnances Macron de 2017 sur le droit du travail et c'est aujourd'hui le dernier jour pour sa mise en place. Les CSE, comités économiques et sociaux qui doivent remplacer les délégués du personnel, les comités d'entreprise et les CHSCT. Une obligation dans les entreprises de plus de 11 salariés. Problème, beaucoup de sociétés n'ont pas encore accompli les démarches. Entre 15 à 20% manqueraient à l'appel selon le ministère du Travail. Les syndicats avancent plutôt le chiffre de 30%. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour.
Alors le ministère du Travail n'a pas accordé de report, estimant que les entreprises ont eu largement le temps de se préparer, mais force est de constater que ce n'est pas le cas.
Oui, et pourtant elles risquent des sanctions. Ces entreprises qui n'auront pas mis en place leur CSE au 1er janvier, elles pourront en effet être punies pour délit d'entrave. Pour celles en tout cas dont la justice décidera qu'elles n'ont volontairement pas mis en place cette instance, un délit d'entrave qui fait risquer un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Car du fait de l'absence de CSE, les salariés n'ont plus la possibilité d'être représentés ni défendu ce qu'ils peuvent dénoncer en obtenant des dommages et intérêts. Et ce qui peut aussi entraîner, par exemple, l'invalidation de licenciement. Pas de possibilité non plus sans CSE pour les entreprises de négocier des accords collectifs, de les réviser ou de les dénoncer. Enfin, en cas de risques psychosociaux, accidents du travail ou dépression liées au travail, la non-existence de ce comité économique et social sera un élément à charge pour l'employeur. C'est dire si les entreprises y ont un intérêt. Mais voilà, la procédure est longue et particulièrement pour les entreprises de petite ou de moyenne taille, elle est complexe. Il faut 2 mois au minimum pour organiser l'élection des représentants du personnel et parmi toutes les structures qui ne s'en sont pas préoccupées, la moitié ne savent même pas qu'il s'agit d'une obligation légale. Il y a aussi le problème de l'absence de candidature des salariés pour représenter leurs collègues. La loi prévoit dans ce cas-là un procès-verbal de carence qui prouve que le CSE n'a pas pu être mis en place faute de représentants. Le syndicat patronal, CPME, estime que les freins à cette nouvelle obligation sont administratifs plus que psychologiques et il propose de lancer une négociation sur la simplification de la mise en place de ces CSE.
Merci Anne Lorchouin. 12h48 sur France Culture et il y a 20 ans, jour pour jour, le président russe Boris Eltsine prenait tout le monde de court, annonçant son départ lors de la traditionnelle allocution télévisée du Nouvel An. Il propulsait alors à la tête du pays son premier ministre, Vladimir Poutine. Ce qui devait n'être qu'un intérim s'est prolongé, puisque Poutine en est aujourd'hui à son 4e mandat, avec à son actif, hein, ou à son passif plutôt, de très nombreuses lois renforçant la censure et restreignant les libertés, notamment politiques et religieuses. Son pays a par ailleurs annexé la Crimée, on s'en souvient, décision non reconnue par l'ONU. Malgré donc ces violations du droit international, l'emprisonnement des opposants, les atteintes répétées aux droits de l'homme et à la liberté d'expression, Poutine règne en maître, une ascension et un maintien au pouvoir que nous décrypte notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin.
Quasiment inconnu du grand public lors de son arrivée à d'intérim sous les ordres du Kremlin, Vladimir Poutine doit son ascension politique au réseau qu'il a su tisser alors qu'il patientait dans l'antichambre du pouvoir, que ce soit au sein de l'administration présidentielle, puis bien sûr à la tête du FSB, le successeur du KGB. Pour Andrei Kolesnikov, politologue du Carnegie Center de Moscou, sa personnalité suscitait alors l'unanimité dans les cercles de pouvoir.
Chaque groupe social, professionnel, clan, tous ont vu en lui l'espoir d'un avenir meilleur. Les libéraux ont vu un libéral qui allait poursuivre une bonne politique économique, les services spéciaux ont vu un des leurs, l'armée, un homme qui était prêt à se battre pour la Tchétchénie, et les masses, un homme qui avait une poigne de fer.
Une poigne de fer contrastant avec le laxisme de l'ère Yeltsin qui a permis à Vladimir Poutine d'imposer sa marque. En organisant la verticale du pouvoir, il a mis au pas la classe politique et les oligarques pour restaurer la puissance d'un État déficient, grandement aidé par les réformes impopulaires de l'économie mises en place par son prédécesseur et une augmentation sans précédent du prix du pétrole. Comment dès lors s'est-il maintenu au pouvoir pendant 20 ans? C'est dû, selon Andrei Kolesnikov, à deux facteurs déterminants.
Le grand art qui a permis à Poutine de se maintenir au pouvoir, c'est la formation d'un équilibre entre les clans qui coexistent pacifiquement uniquement parce qu'ils se trouvent quelque part au milieu. Il y a aussi le fait d'avoir montré aux masses qu'il n'y avait pas d'alternative.
Dès lors, qu'adviendra-t-il en 2024, lorsque s'achèvera son dernier mandat? Personne ne connaît encore la réponse.
Jean-Didier Revoin à Moscou pour France Culture. En bref, le groupe Uber vient de porter plainte contre la Californie pour contester une loi le contraignant à requalifier ses chauffeurs en salariés. Ce texte devait entrer en vigueur demain. Dans sa plainte, le groupe dénonce une loi irrationnelle. On reste aux États-Unis et alors que le président Trump attaque quasi quotidiennement la presse et les médias, le musée du journalisme ferme ses portes ce soir. Le Newseum, un magnifique bâtiment de 7 étages situé entre la Maison Blanche et le Capitole, était installé à Washington depuis une douzaine d'années, mais il était en proie à d'importantes difficultés financières. Cet établissement qui militait donc pour le droit à l'information et à la liberté d'expression met la clé sous la porte. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Quand on passait devant le Newseum sur Pennsylvania Avenue, il y avait cette habitude et ce plaisir de voir afficher chaque matin les unes de journaux de 50 États américains. Puis à l'intérieur, toujours une exposition intéressante sur les fake news, les attentats du 11 septembre ou encore les photos récompensées par le Pulitzer. Lisa est venue du Maryland, emmenée par sa fille Caitlin, lycéenne de 18 ans, qui a déjà visité le musée avec sa classe. C'est quand même un timing étonnant, dit la jeune fille. Évidemment, le président Trump n'a pas décidé de la fermeture de ce musée, mais avec ses tirades répétées contre les journalistes, il a un peu réussi à changer le regard que certains Américains portent sur les médias avec une perte de confiance. On vient de voir l'exposition sur les années 60, reprend sa mère, Lisa. Et Caitlin ne savait pas, par exemple, qu'à l'époque, dans certains États, des restaurants étaient interdits aux Noirs. Et pourtant, elle est afro-américaine. C'est triste de perdre cet accès à l'information et à la vérité. La façade en marbre sur laquelle est gravé le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté de la presse ne va pas disparaître tout de suite, mais les collections du Newseum vont être éparpillées, tout comme le mémorial consacré aux journalistes tués dans l'exercice de leur profession et qui était l'une des salles les plus émouvantes de ce musée.
Notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Champagne avec modération et cotillon, on fêtera le passage à la nouvelle année ce soir en Allemagne comme ailleurs, mais dans ce pays, pour la première fois, il y aura des interdictions partielles ou totales de l'usage des pétards et des feux d'artifice. Les Allemands adorent pourtant cela, ils sont prêts à y mettre le prix, dépensant chaque année toujours plus d'argent. 40% de plus qu'il y a 10 ans, soit entre 130 et 140 millions d'euros. Mais les autorités ont donc décidé de sévir. À Berlin, la correspondance de Ludovic Piétenu.
Entre 700 et 800 personnes se sont blessées ces dernières heures ou vont se blesser d'ici ce soir en manipulant pétards et feux d'artifice. C'est un nombre à peu près constant d'accidents chaque année, touchant la plupart du temps des jeunes garçons ou des hommes adultes, doigts arrachés, mains amputées, brûlures, séquelles auditives ou lésions oculaires plus ou moins graves. Deux morts, deux habitants de la région du Brandebourg à l'Est il y a 2 ans, une mauvaise manipulation ou ce qui est très fréquent ici à cause d'un jet en direction du visage ou des jambes, parfois parce que l'explosif a été fabriqué artisanalement, plus souvent parce qu'il s'agit d'objets pyrotechniques très puissants destinés uniquement aux professionnels. À cette époque de l'année, les douaniers saisissent de plus en plus d'engins de contrebande venant surtout de Pologne. C'est en utilisant cet argument de la sécurité des personnes et des biens que les autorités de quelques villes, pas plus d'une trentaine selon un premiers comptages réalisés par l'agence de presse allemande DPA ont décidé d'interdire leur utilisation totalement ou partiellement, comme à Berlin devant la célèbre porte de Brandebourg. Deuxième fait nouveau, certains gérants de supermarchés ou magasins de bricolage ont retiré les feux d'artifice de leurs rayons ou n'ont pas passé commande. Des initiatives encore très isolées, mais davantage d'enseignes ont promis de rejoindre ce mouvement l'an prochain, invoquant un autre argument devenu cette année la première priorité des Allemands, la protection de l'environnement et de la santé à cause des particules fines émises à chaque détonation, environ 5000 tonnes au total. Ce soir en Allemagne, il y aura dans l'air l'équivalent de ce que produisent camions et voitures en 2 mois et demi dans tout le pays.
La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu. On termine ce journal avec un mot du temps pour aujourd'hui, avec pour résumé du soleil à l'est, de la grisaille à l'ouest. Du côté des températures, les maximales iront de 2 à 8 degrés sur la moitié nord et de 11 à 15 des Pyrénées au pourtour méditerranéen.